Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Marianne durant la case.
Dans Rêveries italiennes, publié par Imprimerie Nationale Édition et diffusé par Actes Sud, paru le 3 octobre 2012, la plume de Dominique Fernandez, de l'Académie française, ouvre le bel ouvrage de 200 pages, comprenant près de 168 photographies de l'artiste-photographe Joël Letter, qui a effectué de nombreux voyages en Italie depuis 30 ans. L'académicien Signola, un éloge au génie italien dans un texte intitulé « Le caprice et la mesure ». Il écrit, je cite, « Nous savions, certes, que tout est beau et harmonieux de l'autre côté des Alpes, mais nous ignorions que la brillante scénographie qui est à l'œuvre dans chaque église, dans chaque palais, dans chaque élément du décor de la vie quotidienne, abrite avec autant d'élégance ses valeurs de recueillement, de silence, de secret. » Un énième livre d'art sur l'Italie ? Pas vraiment. Une rencontre entre un photographe qui sait saisir le charme du génie italien et un écrivain qui loue depuis sa jeunesse l'art et l'Italie à travers ses romans, ses essais, son dictionnaire amoureux de l'Italie et ses récits de voyage tels que Naples, paru en 2011, et Sicile, paru en 2006, avec le photographe Ferrante Ferranti, chez le même éditeur et dans lesquels il met en lumière avec une constante passion les arts de l'Italie. Dominique Fernandez parle d'un goût unique de la beauté qu'apprécient les Italiens, tous milieux sociaux confondus, sur les œuvres qui les entourent. Art et beauté se confondent-ils ? Dans ce livre, point d'utilité, mais de la rêverie. Pas de chronologie, de catégorisation, pas d'explication didactique ou de commentaire. L'écrivain et le photographe offrent une partition visuelle qui laisse le lecteur tout à fait libre de poser son regard sur telle ou telle page. Il n'y a pas d'ordonnancement contraignant, on peut l'ouvrir n'importe où, l'effet est le même, celui d'une invitation où le plaisir de l'œil est avant tout privilégié. Quant au texte de Dominique Fernandez, il ouvre le bal accompagné des photos de Letter, puis au fil des pages, les photos prennent le relais des mots. Dominique Fernandez, bonjour.
Bonjour.
Quelle est l'ambition de ce livre d'art consacré à l'Italie, un livre qui se veut différent du livre d'art habituel ?
L'origine, c'est ce photographe qui a apporté son œuvre, qui, et Letter, au lieu de photographier les choses très connues et visibles, enfin, il va chercher, il est en quête de détails, de pièces que personne ne connaît. C'est une Italie pas insolite, parce qu'il n'y a pas de volonté de provoquer, mais de choses secrètes. Vraiment, c'est l'Italie secrète. Bon, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas.
Oui, vous avez été surpris.
Des sacristies, des salons, des palais, des détails, des façades. C'est ça l'origine.
C'est lui qui vous a présenté son travail ?
Oui,
parce que d'habitude,
oui.
Vous ne travaillez pas comme ça avec Ferrante Ferranti.
Non, ben non, mais avec Ferranti, on a fait 20 livres ensemble, oui. Voyage. Là, je ne connaissais pas M. Letter.
Vous avez écrit après, oui. Avec les photos.
Voilà, c'est ça. Ah, okay. Oui, moi, je n'étais pas avec lui. Lui, il a fait ses photos de son côté, puis il les fait depuis très longtemps. Et je ne connaissais pas du tout son travail, et il l'a apporté, et voilà, c'est le livre, il est comme ça.
Qu'est-ce qui vous a surpris le plus ?
Ça ne m'a pas surpris, ça m'a enchanté, parce que c'est une Italie... C'est beau, c'est la belle Italie. Et c'est, je dirais peut-être, le ton, la tonalité bleue. Il y a beaucoup de photographies, c'est beaucoup de bleu, bleuté, comme ça. C'est une Italie bleue, je trouve, en bleu. Pas solaire, justement, pas éclatante. D'ailleurs, il y a très peu de choses du sud.
Oui, c'est l'Italie du Nord que vous connaissez très, très bien.
J'ai dit aux photographes, mais oui, c'est vrai. Parce que moi, vous savez que je préfère l'Italie du Sud, Naples et la Sicile. Il y a très peu de choses là-dessus. C'est plutôt l'Italie du Nord, Mantoue, Ferrare, la plaine du Pô, enfin. Qui est en effet moins contrasté comme lumière.
Moins solaire aussi.
Moins solaire, oui.
Dans ce livre, je disais que c'était le regard, l'œil qui était privilégié.
Oui.
Est-ce que c'est une invitation à préserver notre regard, à voir les choses avec un œil neuf ? Vous connaissiez l'Italie, il a photographié aussi bien des lieux qu'on connaît, des lieux touristiques, et puis des lieux qu'on ne connaît absolument pas.
Il n'y a pas beaucoup de lieux touristiques, là.
Non, mais je veux dire, pas touristiques, mais je veux dire, il a pu aller chercher un détail de San Giovanni e Paolo à Venise, ou
oui,
du Duomo,
oui.
Enfin, auquel
surtout,
on
il
ne
a beaucoup,
pas.
Enfin, il m'a expliqué, parce que moi, je ne connaissais pas, qu'il y a des années qu'il fait ça, des petits villages en Toscane. Il a repéré, il a beaucoup cherché, enfin, des choses, justement, qui lui plaisaient. C'est ça qui est intéressant. J'ai intitulé mon texte « Le caprice et la mesure » parce que c'est deux caractéristiques italiennes, je trouve, qu'on trouve dans ces photos. Le caprice, c'est la fantaisie, l'originalité, ce que les Italiens appellent l'estro, la fantaisie, mais toujours contrôlée par la mesure. Ça, c'est l'héritage du classicisme, la Renaissance. Ce n'est pas Salvador Dali, ce n'est pas l'Espagne. L'Espagne est beaucoup plus débridée. C'est toujours mesuré, c'est toujours contenu dans certaines normes d'équilibre, d'harmonie. Mais en même temps, le caprice, la fantaisie, vous voyez, c'est ça l'Italie, c'est caprice et mesure.
Ces deux idéaux, pourtant presque antagonistes. Paradoxaux.
Non, parce que regardez, l'Espagne, c'est très intéressant, l'Espagne, c'est excessif toujours. Regardez Ribera, regardez Goya, regardez Dali, évidemment, ou Picasso, ils vont à fond dans le caprice au sens fort, l'extravagance, quelquefois, le surréalisme. Regardez même Chirico en Italie, qu'on a classé un peu surréaliste. Ces choses, ces architectures froides, ces décors froids, il y a une mesure toujours. L'Italien porte en lui une mesure des choses. Il n'y a pas de démesure, si vous voulez.
Ça, c'est ce que vous appelez le génie italien ?
Oui, le génie au sens, pas au sens banal, mais au sens profond, c'est-à-dire la chose spécifique, la spécificité, disons, italienne, c'est ça, c'est la mesure. La Russie, par exemple, peut être démesurée. La France, quelquefois, manque de fantaisie. Il n'y a que la mesure, quelquefois, pas toujours, hein, pas toujours, pas toujours. L'Italie, à la fois, les deux choses, la fantaisie et... Regardez, Vivaldi a intitulé son opus le plus célèbre, l'estro armonico, ce qui veut dire la fantaisie harmonique. Enfin, et Vivaldi, c'est très original, comme on sait, mais il y a toujours une mesure, il y a une coupe en trois mouvements. Enfin, vous voyez, c'est toujours il n'y a pas des choses gigantesques, démesurées, comme les symphonies de Shostakovich, vous voyez, où...
Il y a une retenue à un moment.
Il y a toujours une retenue, une mesure, quoi. Mais ça, c'est toute la Renaissance. Même Michel-Ange, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, Michel-Ange, c'est génial, c'est une fantaisie inouïe, d'une invention inouïe, en même temps, c'est contenu, c'est...
Et inversement, le caprice peut aussi déborder, même dans un monastère cistercien, où habituellement, il n'y a pas de chapiteau coloré. Justement, on est en Italie, voilà, et ça émerge.
Caprice, mais toujours à l'intérieur d'une mesure. Je crois que c'est ça, vraiment, la spécificité de l'Italie. Ces deux choses définissent l'art. C'est pour ça qu'il y a tellement... Vous savez qu'un tiers des œuvres d'art du monde se trouve en Italie. Le patrimoine artistique italien, c'est gigantesque, parce qu'ils ont un équilibre entre ces deux extrêmes.
Il y a aussi un environnement permanent de ces œuvres d'art, même dans des petits villages là, qui nous sont révélés, mais que les habitants connaissent, que les gens de ces régions connaissent. Il y a une profusion d'œuvres d'art, tout simplement, qui probablement éduque l'œil des Italiens
Malheureusement, tout ça, il faudrait mettre un peu au passé, tout ça. Parce que
alors, vous parlez au passé presque.
Quand on voit les banlieues aujourd'hui, c'est comme en France, hein, mais c'est monstrueux. Et puis, il y a une laideur qui envahit, comme partout, qui est liée à la culture progressive. L'Italie de Berlusconi, ça a été un désastre.
Oui, mais les œuvres d'art, le patrimoine architectural et artistique est quand même relativement bien préservé, y compris par
regardez ce qui se passe à Pompéi. Les maisons s'écroulent, qui ont survécu pendant 2000 ans. Maintenant, on ne les entretient pas et elles tombent en ruine. Avec une seconde fois en ruine. Non, je dis au passé parce que vous dites que les Italiens aujourd'hui sont sensibles. Pas tous, malheureusement. Ils étaient sensibles, mais il y a une dégradation quand même rapide.
Dans le livre Rêveries italiennes, là, les terres jouent sur le clos et le huis clos,
surtout
l'intérieur et l'extérieur.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans
surtout
ce rapport?
Surtout le clos, il me semble. C'est surtout des pièces. Moi, ce que je préférais, c'est il y a des sacristies ou des salons avec des fenêtres, une lumière indirecte. Et là, c'est cette atmosphère intime, c'est une Italie intime aussi. Il n'y a pas de panorama, je crois.
Non, il n'y en a pas.
Il n'y a pas de panorama à Naples, non. C'est des pièces qui pourraient être dans une autre ville que celle où elles sont. D'ailleurs, des fois, il a eu du mal à retrouver l'origine, à localiser.
À les identifier précisément.
Ça pourrait être ailleurs, je veux dire.
Dans certaines photographies, il y a une intrusion, une confusion entre l'œuvre d'art qui est derrière...
Oui.
Et puis un détail, par exemple un fil, un rideau, une corde, une lampe, qu'on remarque, bien sûr, mais qui ne nuit pas à l'œuvre photographiée. Inversement, il y a une harmonie entre les deux, il y a des contrastes entre l'œuvre
et puis en Italie, l'œuvre d'art, ce qu'on appelle l'œuvre d'art, une statue, une peinture, est toujours dans un cadre beau lui-même.
Oui.
Tout est beau en Italie, pas seulement l'œuvre d'art de l'artiste connu, mais les choses anonymes, la paroi de marbre, la corniche...
Le chapiteau,
tout ça,
la porte,
tout est beau,
l'encadrement.
Il y a un soin
Vous parliez des couleurs bleues, effectivement, elles sont presque toutes. Oui, elles sont toutes. Toutes les photographies en tonalité azur. Comment on dit le bleu alors en italien?
On dit azzurro. Bleu, je sais pas. On dit blue, mais enfin, le mot c'est azzurro.
Et c'est quoi la différence alors entre blue et azzurro?
Non, mais le mot vraiment c'est azzurro et blue, parce que dans les chansons il y a di pinto, di blue, vous savez.
Oui.
Non, on peut dire blue, mais c'est imité du français, tandis qu'azzurro c'est le mot italien.
Ah, il a des bleus profonds pour.
Oui,
pour,
sont pas
on
ne
sait pas si
tout.
C'est la nuit.
C'est des lunaires, un peu. Voilà. C'est des bleus lunaires.
Presque un petit.
Crépuscule, enfin.
Petite nuance, pas de clin, mais quelque chose de très, très dense dans le bleu, très profond. On retrouve. Vous signalez qu'il y a un véritable sens de la scénographie chez les Italiens dans leur intérieur.
Ah ben c'est les plus grands scénographes du monde. Et vous savez que les grands artistes comme Bernin, par exemple, faisaient les grandes scénographies au VIIe siècle. C'est-à-dire les arcs de triomphe, les processions, tout ça a été détruit. C'était en bois ou en carton, en toile. Mais tous les grands architectes ont été scénographes. Ils faisaient aussi des mises en scène d'opéra. C'est le sens du théâtre, le sens de l'opéra. C'est pour ça que c'est la terre aussi de l'opéra, c'est la terre du théâtre, la terre des fêtes, des processions. Tout ça, c'est le sens du théâtre.
Parce que ça s'appelle rêverie italienne. Oui. Et vous, dans ce texte, le caprice et la mesure, vous rêvez aussi. Vous
oui, ben c'était rêver, parce que justement, dans la mesure où ce n'est pas très localisé.
Oui.
On ne sait pas, peu importe au fond où ça se trouve. À part une ou deux coupoles célèbres, parce qu'il y avait des coupoles très belles. Mais sinon, on ne sait pas. Ça, par exemple, vous avez un bout de corniche avec une balustrade, avec une statue. Peu importe où c'est, ça fait rêver, ça ouvre l'espace, la rêverie sur la beauté.
Alors vous rêvez quand même sur les pas des écrivains, soit Stendhal, Gide.
Oui.
On est entre la promenade littéraire, bien entendu, aussi musicale, à travers ces photos. Moi, j'ai été étonnée par le temps qu'on passait à feuilleter l'album. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de feuilleter. On tourne les pages et on peut revenir. Et effectivement, on peut s'arrêter.
Parce, c'est une lecture. Ce n'est pas thématique. Je veux dire, c'est pas, quand vous avez un livre sur Naples, forcément, c'est plus thématique. Vous avez le Naples populaire, la Naples des théâtres, la Naples ceci. Là, c'est tout mélangé. Ce sont des aperçus sur la beauté italienne. Donc, en effet, ce n'est pas des chapitres cohérents. Vous voyez, chaque page est une invitation à rêver.
Est-ce que vous savez comment, justement, la mise en page a été faite?
Non, ça, je n'ai pas participé. Ça, c'est lui, sans doute, et puis l'éditeur, je ne sais pas.
Parce que, justement, on ne retrouve pas de chemin particulier. On n'en lit pas pour, justement, s'ouvrir au rêve,
à la rêverie. Il n'y a pas de chemin, parce que... En effet, il n'y a pas de chemin particulier.
C'est un état d'esprit.
Oui, ce n'est pas un cheminement, c'est une rêverie, c'est autre chose.
C'est une expérience que vous réitérerez, j'imagine.
J'ai beaucoup de livres avec Ferranti. Je travaille. On a le livre sur l'Académie, d'ailleurs, vous savez, l'an prochain. Vous savez qu'il n'y avait pas de livre sur l'Académie française. Il n'y a pas de livre sur l'architecture, sur les bâtiments. Il y a beaucoup de livres d'anecdotes, l'histoire de Mme Carnancos. Ou alors, il y a des livres très spécialisés, personne ne connaît. Mais il n'y avait pas un livre public sur... montrer la coupole, le tombeau de Mazarin, la salle des séances, la bibliothèque. Donc j'ai fait un texte, beaucoup plus long que celui-là. Et Ferrante est grimpé sur les toits, est allé dans la coupole. Et donc ce sera l'an prochain.
Ça. Ah voilà, ce sera une sortie. Mais on va quand même beaucoup moins rêver, pardonnez-moi, parce que là ici...
la coupole, si.
Il y a des détails dans la coupole qui vont...
La coupole, c'est admirable.
Bien sûr,
ovale inscrit dans le rond. Et puis le tombeau de Mazarin, qu'on ne voit pas parce qu'il est dans un coin, c'est qu'il aurait dû être au centre. Et qu'il n'y avait pas de place, parce qu'on l'a mis dans un coin, mais c'est une œuvre admirable.
Bien sûr.
Avec les trois statues, les trois vertus.
Trois allégories.
Non, il y a beaucoup de choses très, très belles.
Pour revenir sur les photos de Joël Letter, moi, je voulais juste dire, par exemple, qu'il alterne des images très nettes, avec des images beaucoup plus... avec un grain plus gros, et presque impressionniste, mais toujours dans ses bleus.
Le mot impressionniste, je trouve, convient très bien. C'est vraiment des impressions, parce que c'est en dehors du temps, en dehors du lieu, il voit une chose qui lui plaît, et hop, il la prend dans son appareil, vous voyez.
Est-ce que vous, quand vous vous promenez, vous avez ce regard qui peut s'arrêter sur un détail?
Moins, parce que je n'ai pas la même forme d'esprit. Moi, je ne suis pas impressionniste tellement. Je préfère, moi, le cheminement, justement. Mais n'empêche que là, justement, j'étais très content de m'arrêter à des choses que je ne connaissais pas, parce que le cheminement, on a une idée en tête préconçue, donc on a un but, tout ça. Là, il n'y a pas de but, c'est une flânerie, c'est une...
Une façon de se dépouiller aussi, d'avoir un regard plus vierge.
Oui, oui, mais ça, il m'a dit que ça représente des années de travail, hein. C'est pas un voyage, c'est repérer des choses vraiment qui lui plaisent, qui lui paraissent revenir quand la lumière est bonne et tout ça. quand j'ai fait un livre sur la Naples ou la Sicile avec Ferranti, on avait un but, on n'avait pas un programme, parce qu'il y a toujours un événement de hasard, de rencontre, mais quand même un chemin, quand même un tracé, un bâti, si vous voulez. Et après, ça change beaucoup, on varie, on ne suit pas du tout la ligne qu'on s'est suivie. Mais là, il n'y a aucune ligne, il n'y a pas de bâti du tout. Et c'est vous, ça, la différence.
Vous n'auriez pas eu envie d'écrire plutôt de la poésie ou...
Moi, je ne suis pas poète du tout, non, vaut mieux pas se risquer, c'est poète. J'aime trop la poésie. Non, moi, je ne suis pas du tout poète. Moi, je suis essayiste, romancier, mais essayiste, et j'aime bien, disons, l'approche plus intellectuelle, si vous voulez, des œuvres d'art. Donc, l'impressionnisme, ce n'est pas une approche intellectuelle, c'est une approche purement sensible, purement visuelle. C'est pour ça que je n'aime pas tellement Monet, par exemple. C'est ces cathédrales floues, c'est uniquement des impressions... C'est la dissolution de l'objet, ça m'agace un peu, moi.
Qu'est-ce qui vous touche le plus, alors ?
Dans la peinture ?
Ouais.
Eh bien, c'est les gens comme Michel-Ange, comme Raphaël, comme Poussin, les gens, enfin, comme beaucoup d'autres, comme Velázquez, enfin, mais qui sont plus solides, vous voyez, plus construits, qui eux-mêmes sont plus intellectuels.
Plus, j'allais dire cartésien, mais.
Moi, j'aime mais pas les impressionnistes, par exemple, vous voyez. Enfin, j'aime pas, si tu veux dire ça. Les vrais impressionnistes, hein. Parce que Cézanne n'est pas impressionniste, ni Van Gogh, etc. Mais c'est Monet, Pissarro, Sisley. Ça m'ennuie. Ouais, ça. Vous savez que c'est ce qu'il y a de plus de succès aujourd'hui, parce que personnellement, le public étant de plus en plus inculte, n'a pas de structure intellectuelle, et quand il voit un tableau de Monet, ça lui rappelle ce qu'il peut voir lui. Dès qu'un tableau de Poussin ou de Velázquez, il y a une construction, il y a une culture derrière. Ça peut être la mythologie, l'histoire, la Bible, tout ça. L'impression, c'est, tout le monde peut l'avoir. Je ne sous-estime pas du tout, c'est très beau, hein, c'est très beau, mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon... Ouais.
Quel photographe vous aimez, par exemple, parmi les photographes connus du grand public ?
Ferranti commence à être très connu. Lui, c'est très différent, il a une formation d'architecte. Hein.
Lui aussi, d'ailleurs, hein, les terres aussi. Oui.
Alors lui, vraiment, il a un diplôme d'architecture, il a étudié la scénographie, les bibliennes et tout ça. Et donc, il est beaucoup plus structuré.
Là aussi, il y a une
construction
intellectuelle.
Il n'est pas impressionniste du tout, Ferranti. Il construit ses photos d'après, c'est construit comme une architecture. C'est très différent. Et les autres photographes, j'aime beaucoup le Brésilien Salgado. Salgado, qui est un très grand. J'aime beaucoup, il y a un Péruvien aussi. Enfin, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Quoi. C'est ça.
D'accord, mais il n'y a pas un courant particulier
Non, je ne m'y connais pas. Je ne suis pas assez connaisseur pour me hasarder sur ce terrain. Mais...
D'accord. Comme vous travaillez beaucoup avec justement des photographes, j'étais curieuse de savoir si vous aviez...
Parce que on voyage ensemble, c'est très différent. Mm-hmm. Là, on m'a apporté ces photos, j'ai trouvé très belles, donc c'est très différent. On part. J'ai fait 20 voyages avec lui, tout le monde entier. Et quand nous voyageons, le matin, nous allons chacun de notre côté, pour ne pas nous influencer réciproquement. On se donne rendez-vous à 1 heure, et on repart, et on confronte. Moi, je prends des notes, lui, il prend ses photos. Après, on bâtit ensemble, il fait lui-même la maquette. C'est très différent, vous voyez. C'est un travail. Enfin, pas collectif, parce qu'on est deux. Enfin, c'est un travail de collaboration très étroite. Très étroite,
en plus,
on est très amis, je veux dire. Très étroit. Là, j'ai commenté quelque chose qui était extérieur à moi, mais que j'ai beaucoup aimé.
Vous avez beaucoup apprécié.
Mais c'est très différent. C'est pas du tout la même chose.
Ouais. C'est un bel hommage à cette œuvre photographique. Aussi,
ah oui, mais c'est splendide,
c'est très beau,
les terres.
C'est très, très bien écrit.
Vous savez, beaucoup, lui, enfin, tout le monde, l'éditeur, a choisi, parce qu'il avait des centaines de clichés, tous très beaux. Donc, c'était très difficile de choisir. Parce que choisir, c'est éliminer. Donc, elles étaient toutes belles, en quelque sorte.
Et dans toutes ces 168 photos qui ont saisi soit des morceaux d'architecture, soit des peintures, soit des fresques, soit des pavements, vous avez une préférence sur une image particulière qui vous vient en tête, là, tout d'un
non,
coup
mais non, la couverture, par exemple, est très belle. Ah, j'aime beaucoup celle-là, par exemple, vous voyez. C'est une Castel d'Arquato. C'est un petit village près de Piacenza, qui est une petite ville près de Parme. Donc déjà, ce n'est pas très connu. Plaisance, qui est une très jolie ville que je connais, mais je ne connaissais pas, par exemple, Castel d'Arquato, c'est un petit village. Et là, il a trouvé une porte extraordinaire, une porte en bois, avec un linteau et un... Je ne sais pas comment ça s'appelle, rose, violet, Parme. C'est une construction admirable. Il n'y a que les Italiens qui ont ça. On n'a pas de porte comme ça.
Une grande porte en bois, je ne sais pas si c'est du noyer, enfin, je veux dire, d'un
bois
sculpté, noir.
Sculpté, avec des reliefs, et puis surtout l'encadrement. Et puis, pas régulier, hein, parce que la corniche est brisée, il y a un petit fronton. Enfin, c'est extraordinaire. C'est page 15. Mais je veux dire, chaque page est comme ça. Et vous voyez, Castel, ce petit village qu'elle a trouvé, il n'y a que lui. C'est en dehors des routes, il faut prendre une voiture, aller dans les petits chemins...
Voilà.
C'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est une Italie vraiment découverte, personnelle, aimée, c'est très personnel ces photos.
et vous avez adoré apparemment.
Ah oui, je boue. Non, c'est très très bien.
C'est à mettre entre toutes les mains pour se détendre et pour rêver, parce que ça va des peintures, des singeries.
L'imprimerie nationale, c'est un département d'Actes Sud. C'est l'ancienne imprimerie qui était supprimée là. Ils avaient un département d'édition, donc c'est Actes Sud qui l'a racheté, mais en conservant l'équipe, l'autonomie, si vous voulez. Et ils font des livres vraiment très très beaux. Hein.
Et c'est un grand format.
Grand format, très bien imprimé, très surveillé, contrôlé, très beau papier, très belle impression, relié, la couverture est très belle. Enfin, c'est vraiment un très bel objet. Hein.
C'est un beau livre à s'offrir et à offrir.
Oui, à offrir, mais aussi pour soi,
s'offrir. Oui, c'est ça. Et, à offrir. Et pour ne pas souffrir.
C'est pas ce qu'on appelle, comme, vous savez, un table book, là. Vous savez ce que les Anglais appellent un livre qu'on met sur la table basse.
Oui, pour faire joli.
Jamais, pour faire joli, oui, non. C'est un livre à mettre sur son pupitre, ce matin, et méditer chaque page. Moi, je fais ça, d'ailleurs. Et j'ouvre chaque jour, je tourne une page. Pendant une journée, on peut se faire accompagner par une de ces images, comme ça.
Ah oui, mais là, c'est une très belle invitation que vous nous proposez, mais au lieu d'être l'agenda habituel, c'est une...
Et comme il y en a, vous avez calculé qu'il y en a 168.
168.
Donc c'est la moitié de l'année, pratiquement.
Mais on peut recommencer l'année d'après.
On peut recommencer 6 mois après, même. On veut avoir 2 fois chaque année.
Tout à fait. Non, il y a des images magnifiques, de sculptures aussi, on ne les a pas évoquées.
Oui, très bien.
D'anges, évidemment, de coupoles magnifiques.
Des fresques aussi, il y a des bouts de fresques à Venise très amusantes.
Oui, avec un esprit ludique.
Oui.
Aussi, qui sait aussi un peu se moquer.
Oui,
c'est le côté
bien.
Caprice dont on parlait tout à l'heure et des fantaisies. Eh bien, je vous invite simplement à vous l'offrir. Voilà. Merci Dominique Fernandez.
Merci.